Nous avons bien fait d'appeler l'Esprit Saint à notre secours. C'est lui qui peut nous faire comprendre les exemples que nous ont laissés et que le Seigneur a voulu que laissent Saint Claude et Sainte Marguerite Marie pour que nous puissions en profiter. Je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'à peu près toutes les personnes qui sont là connaissent déjà bien et même fort bien tout le déroulement de ces événements de Parel Monial qui ont été si importants et qui continuent à produire des fruits toujours renouvelés suivant les époques. Dans l'Évangile, Jésus a promis à ses disciples que l'Esprit les ferait ressouvenir de ce qu'il leur avait dit. Autrement dit, qu'il leur ferait comprendre ce qu'il avait dit et ce qu'il avait fait. Mais c'est ce que nous pouvons demander à l'Esprit Saint ce soir, c'est qu'il nous fasse ressouvenir, c'est-à-dire mieux comprendre tous les exemples que nous ont laissés ces deux saints. Je n'entrerai pas dans tous les détails, bien sûr, de la biographie de ces personnes, mais je voudrais souligner quelques points qui sont importants, parce qu'ils nous aident à les comprendre. C'est surtout de Claude que nous parlerons, puisque nous sommes le lendemain de l'anniversaire de sa canonisation, mais bien sûr, Claude nous amènera à parler, bien sûr, de Marguerite Marie. La première chose qu'on pourrait peut-être souligner dans la vie de Claude, c'est le rôle qu'a joué sa famille. Sa famille est une famille profondément chrétienne. Sur les 5 enfants qui vivront, il y en a tout de même 4 qui se consacrent à Dieu, 3 prêtres et une fille qui entrera chez les visitandines de Condrieux, un peu au sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône. Les deux frères, l'un sera prêtre dans le diocèse de Vienne, qui à l'époque est chef-lieu d'un diocèse, et l'autre partira au Canada avec des oratoriens comme missionnaires. Quant à Claude, bien, nous savons comment il a choisi la compagnie de Jésus. Il faut également dire que le seul qui est resté dans le monde s'est marié et a eu, je crois que c'est 13 enfants, et a donné un exemple tout à fait remarquable d'une famille chrétienne et de parents chrétiens. On peut le rappeler à notre époque, où la famille est assez secouée, bien souvent, parfois par le laisser-aller, parfois par le manque de courage, parfois aussi par des arguments plus profonds qui semblent essayer de justifier les manquements aux exigences de l'Église. Cette Église qui paraît à trop de gens, trop demanderesse, il faudrait être presque héroïque pour certains. Bien, ce que nous allons dire, c'est que justement, si on veut être fidèle, il faut bien qu'il y ait cette présence de l'Esprit, cet accueil dans notre vie. Le deuxième point sur l'enfance de Saint Claude, ce serait celui-ci. Plus tard, il dira dans une lettre à la maman d'une jeune fille qui veut entrer au couvent, sans en avoir tellement pourtant une envie sensible. Il dira qu'il avait pour ce genre de vie, la vie religieuse, une profonde aversion. Et pourtant, il va y entrer à 17 ans, une fois terminé ses études à Lyon. Il est interne à Lyon et habitant Vienne et dans les établissements des jésuites. Nous avons peu de détails sur ce choix, mais ce que nous pouvons dire, c'est que s'il y a eu une telle victoire sur une aversion, c'est que cette vocation était vraiment très solide. Et la suite l'a marqué. Eh bien, voilà des choses qu'il faut rappeler et peut-être dire que quand on choisit une direction dans la vie, ce n'est pas seulement le goût qu'il faut mettre en tout premier, mais essayer de voir ce que le Seigneur nous demande réellement. Et il faut y réfléchir profondément et y mettre le temps et la vigueur spirituelle nécessaires. Bien Claude nous rappelle cela. Et je dirais qu'à n'importe quel âge, des questions de ce genre-là peuvent se poser. Oui, on n'entend pas. Bien. Donc, je parlais de cette aversion. De fait, Claude va rentrer au noviciat à 17 ans et il va s'appliquer avec générosité. C'est ce que demande Saint Ignace quand on commence quelque chose. Il s'applique avec générosité à la formation que lui offre la Compagnie de Jésus. Il va prendre dans les règles qu'on lui propose, eh bien, vraiment tout ce qui est demandé. Et dans cette confiance qu'il fait à Saint Ignace et à tous ceux qui ont suivi pour expliquer sa spiritualité, bien, il va arriver ainsi à une grande fidélité. La fidélité, c'est déjà une vertu qu'il manifeste dans cette formation. Mon fidèle serviteur et mon parfait ami, plus tard, c'est Jésus lui-même qui dira cela de Claude à Marguerite Marie pour caractériser la générosité de son fidèle ami. Il va faire les études habituelles et il est assez brillant. Deux points que nous pouvons remarquer. Là encore, je mets que les points, je dirais, qui frappent davantage. Bien, le premier, il manifeste très vite des dons pour la prédication. Et c'est lui qui sera choisi lorsqu'il s'agira de grandes circonstances comme la canonisation de Saint François de Sales, pour lequel il prêche à Avignon où il fait son noviciat, ses études littéraires. Comme il est doué aussi, on l'envoie faire sa théologie à Paris. C'est là qu'on envoyait les meilleurs élèves. Et il aura l'occasion, par là, de rencontrer des personnages qui ont une certaine importance dans la littérature du moment. Il sera même, on sait, précepteur des fils de Colbert, qui était le grand ministre de Louis XIV. Ensuite, bon, il revient quelques années à Lyon, où il va de nouveau enseigner, et comme il prêche très bien, on le décharge de l'enseignement pour qu'il puisse se consacrer à la prédication. Ainsi donc, notre Claude, à ce moment-là, alors va pouvoir entrer dans ce qu'on appelle chez les jésuites le troisième an. Ce mot est également employé dans beaucoup d'autres congrégations qui ont imité ce que Saint Ignace avait inventé. Il veut qu'après les études qui ont pu refroidir un peu la chaleur de la dévotion, on consacre un certain temps, un an, quelquefois c'est un peu moins, enfin une certaine quantité tout de même de temps, pendant lequel on s'appliquera essentiellement à la prière, à la réflexion et à la compréhension de la spiritualité que l'on pratique. Et c'est là que va se passer l'événement, on peut dire, je crois, capital de sa vie, cette découverte qu'il fait au cours de cette période. En effet, il commande par faire les grands exercices de 30 jours, et quand il médite, comme le demande saint Ignace, devant la croix, eh bien, il constate qu'il s'est laissé prendre un peu par son succès. Les sermons, qui sont très suivis à Lyon, ont fait germer en lui une sorte de vanité. Il ne s'en est pas rendu compte. Il voyait simplement que ses sermons devaient faire du bien puisque les gens venaient les écouter. Mais comme il arrive chez les saints, il y a souvent une tentation subtile qui essaye de se glisser, car Satan, voyant les possibilités de ce jeune prêtre, a dû certainement essayer de gâcher les belles choses auxquelles il était appelé. Mais l'Esprit-Saint est là, et Claude lui est fidèle. Ce qui va amener ce changement, bien c'est justement la découverte de son péché. Il est pécheur, et ce péché lui apparaît à ce moment-là comme vraiment quelque chose de particulièrement mauvais qui risque de gâcher toute sa vie. Alors, comme il le dit, il éprouve une très grande confusion, il appelle ça ses désordres, il emploie même le mot de crime. Certainement, ce qui lui apparaît le plus noir, c'est qu'il a gardé pour lui une gloire qui devait revenir à Dieu. C'est là qu'on pourrait rappeler le psaume, ce verset du psaume où il est dit « Non pas à nous, Seigneur, de donner la gloire, mais à toi et à ton nom. » Eh bien oui, la gloire, il l'a un peu trop gardée pour lui. Il en a savouré le goût, mais alors maintenant, devant le Christ en croix, qu'il considère, comme le demande saint Ignace, devant ces plaies du Christ qu'il voit, les mains et les pieds transpercés par les clous, le cœur qui a été transpercé lui aussi par la lance du soldat, alors il comprend combien il était sur une mauvaise pente. Et alors vraiment, il a à ce moment-là une contrition parfaite et Dieu va répondre immédiatement en mettant dans son cœur une grande douceur. Il va alors découvrir que ce péché, s'il était grand, a donné à Dieu l'occasion de manifester sa grâce et son pardon, qui sont beaucoup plus grands. Et c'est en général ce qui marque les vraies conversions. On peut penser à l'enfant prodigue, tout simplement. Il s'était fait une idée de la bonté de son père, mais pour lui, ça ne dépassait pas le niveau d'être accepté comme un serviteur, comme les autres. En fait, vous le savez, le père lui rend tous les honneurs qu'il avait autrefois et lui redonne toute sa confiance. Là où le péché a abondé, la grâce à surabonder et la joie qu'elle entraîne. Alors, cet événement est décisif dans la vie de Claude. Et il deviendra alors, on peut dire, celui qui est spécialisé dans la confiance en Dieu. Et quand il rencontre des personnes qui se disent découragées, qui disent « Mais que fait le Seigneur pour moi ?», il les reprend très vigoureusement, leur disant « Mais enfin, est-ce que vous croyez à la miséricorde de Dieu, oui ou non ?» Bien, si vous y croyez, bien, faites-lui confiance et il viendra à ce moment-là. Ainsi donc, notre Claude va bientôt quitter Lyon pour Paray-le-Monial. Les dernières paroles qu'il a écrites à Lyon sur cette retraite, spécialement dans le début, ce qui s'est passé au début, sont enfin, comme des prophéties de l'avenir. Il écrit en effet, il se laisse emporter car il avait certainement un cœur qui était sensible. Et sur le papier qu'il écrit pour lui, simplement, il dit franchement son amour pour cette miséricorde de Dieu. Et alors il dit, je voudrais maintenant que mon cœur soit plongé dans le cœur de Jésus et de Marie, ou alors que le cœur de Jésus et de Marie soit plongé dans mon cœur. Il a déjà le langage du cœur quand il parle de Dieu. N'oubliez pas qu'il est encore à Lyon, qu'il n'a pas encore rencontré Marguerite Marie, et qu'il ignore probablement les apparitions de Paray, où il les connaît encore assez mal, si la nouvelle en est venue jusqu'à Lyon. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'un jour, de fait, Jésus prendra le cœur de Jésus, de Marie, de Marguerite et de Claude, et les mettra dans son propre cœur. Seule, bien sûr, Marguerite Marie en aura la vision, mais elle dira à Claude ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous savez que le tableau qui est à la chapelle de la Colombière a immortalisé cet événement qui est vraiment la reconnaissance par Jésus de son serviteur. Alors nous arrivons à la période avec Marguerite Marie, c'est la plus connue. Bon, donc c'est pas la peine de s'y étendre. Mais enfin, il faut ce qu'on peut, c'est regarder la manière dont Claude va se comporter. C'est l'homme qui va écouter. Il a entendu parler de cela quand il est arrivé à Paray-le-Monial, bien sûr. Il a entendu certainement des avis opposés, certains disant que le Seigneur, de fait, parle à une religieuse, d'autres disant que c'est de l'hystérie et qu'elle s'est laissée prendre et qu'il faudrait la secouer. Donc, lui va rencontrer Marguerite Marie. Et, chose curieuse, il dira qu'il avait remarqué dans l'assistance des visitandines qui écoutaient la conférence qu'il avait faite pour aller leur dire bonjour en arrivant, il avait repéré cette religieuse. Et inversement, Marguerite Marie, qui avait demandé au Seigneur de lui envoyer quelqu'un pour l'aider au moment où elle était proche du découragement et bien inquiète pour l'avenir, de lui envoyer quelqu'un. Et on sait que Dieu avait répondu, si c'est le Sacré-Cœur, Jésus lui-même avait répondu en disant « Je t'envoie, mon fidèle serviteur et parfait ami. » Alors, quelqu'un qui a parlé du cœur de Jésus comme Claude en avait parlé, était fait pour comprendre ce que Marguerite lui disait à propos du cœur de Jésus. Quand il arrive à Paris, Marguerite Marie a eu déjà les deux premières grandes apparitions. Donc on en est au moment où déjà Jésus a demandé à Marguerite Marie donc d'être sa servante particulière pour une grande œuvre qu'il veut accomplir par elle. Et il lui dit franchement que si elle est choisie, c'est parce qu'elle est justement indigne de cette œuvre, qu'elle est la plus misérable. Et comme cela, l'œuvre qui sera très grande sera attribuée à Dieu lui-même, car on ne pourra pas penser qu'une religieuse aussi médiocre a pu accomplir des choses pareilles. C'est l'humilité profonde qu'a déjà Marguerite Marie et qui peut au contraire se réjouir de n'être rien en quelque sorte pour que Jésus soit tout. C'est d'ailleurs un des conseils que Claude lui laissera avant de quitter Paray-le-Monial. Mais cela, elle l'a déjà vécu intérieurement. Et elle sait que la véritable humilité, c'est de reconnaître ce que le Seigneur fait de merveilleux à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a ensuite une chose importante, une autre, mais qui va se dérouler après le départ de Claude de Paray-le-Monial. En effet, Claude, qui avait été envoyé à Paray, un peu à la surprise générale d'ailleurs, va devoir le quitter. Je dis à la surprise générale parce qu'on avait pu s'étonner de voir un prédicateur comme Claude être nommé à Paray-le-Monial, qui à l'époque comptait à peine 2000 habitants. Et encore, tous n'étaient pas catholiques. On sait qu'il y avait une part de protestants. Et pourtant, c'est là que Claude va trouver vraiment ce que le Seigneur lui demande d'essentiel. Ainsi donc, à partir de ce moment-là, c'est Marguerite Marie qui, ayant été rassurée par Claude, va devenir en quelque sorte la directrice spirituelle de Claude. C'est vraiment un mouvement de bascule, pas l'une remplaçant l'autre. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que Claude, de son côté, accepte cette direction de Marguerite Marie. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce qu'il est lucide et qu'il est humble. Il se rend bien compte maintenant que Marguerite Marie, qui est instruite directement par Dieu des vérités de la foi, peut en parler encore mieux que lui. Et il voit bien que Marguerite Marie reçoit des instructions qui viennent directement du Christ et qui concernent des personnes qui sont autour d'eux, à Paray. C'est donc dans cette humilité que, tout en continuant officiellement à la diriger, il va au contraire accepter tout ce que Marguerite Marie va lui dire. En effet, quand Claude va quitter Paray, il va lui laisser, en tant que directeur spirituel, quelques conseils. Mais ce sont des conseils, disons, d'une allure assez banale, qui n'ont rien d'extraordinaire, rappelant qu'il faut tout donner à Dieu et que finalement on n'est quand même rien devant lui. Marguerite Marie, de son côté, va, je dirais, prendre un peu la direction et donner alors quelques directives précises à Claude. Il faut dire que si on l'enlève de Paray le Monial, c'est pour aller à Londres, donc, vous le savez, comme prédicateur de la duchesse d'York. Je n'entre pas dans tous les détails. C'est une princesse catholique qui a épousé un prince catholique, le frère du roi qui est catholique, alors que tout le monde est anglican autour de lui. Alors il faut une petite cour autour de ce couple princier catholique, et il faut un aumônier et un prédicateur. Et c'est Claude qui est choisi pour ce rôle d'éducateur. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, Claude, d'une certaine façon, va diminuer officiellement. Il ne diminue pas en sainteté, mais apparemment, d'un point de vue humain, il a une responsabilité auprès de grands personnages, mais il n'a plus maintenant que quelques auditeurs, les quelques catholiques qui sont autour de ce prince et de la princesse. Il faut qu'il soit très prudent, car les catholiques sont persécutés, donc très peu de relations avec l'extérieur. Il y a tout de même quelques personnes qui viennent de temps en temps assister alors aux prédications qu'il fait dans la chapelle, mais c'est très limité là aussi. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Ainsi, elle donne ses conseils à Claude. Ça se passait de la façon suivante. Marguerite Marie tenait absolument à que tout se fasse dans l'obéissance. Alors, elle envoyait des lettres, des billets à Claude, mais c'était la supérieure qui les lisait d'abord et qui les transmettait. Et au retour, c'était la même chose. Alors, Marguerite Marie écrit ceci, par exemple: « Le père Lacolombière a beaucoup de qualités pour attirer les âmes, mais il faut qu'il pratique plus de douceur avec les gros pécheurs et qu'il n'utilise la force que lorsqu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen d'amener une certaine conversion. » Donc, c'est un conseil qu'elle se permet à donner à un prêtre pour ses confessions. Elle est tout à fait dans l'humilité, mais c'est quelque chose que probablement le Seigneur lui a dit aussi, car le Christ lui donnera assez souvent des missions, des missives, disons, pour telle ou telle personne de sa communauté, et ça passe toujours par la supérieure qui transmet si elle l'estime valable ou qui ne transmet pas si elle estime qu'il vaut mieux ne pas le faire. Et le Christ consulté a été d'accord pour cette façon de procéder. Quelquefois, Claude lui-même a quelques petites difficultés. Il lui arrive d'avoir des retours d'une certaine vanité. Il a peur d'être de nouveau pris par cela. En fait, il s'agit de tentations un peu extérieures auxquelles il ne cédait pas. Il a aussi quelquefois des doutes, il ne précise pas exactement lesquels, mais enfin des moments d'inquiétude. Et il avoue dans ses notes ou dans des lettres: j'ai eu un moment d'inquiétude, et quelques mots dans un billet de sœur Alacoque, vous savez qu'il l'appelle toujours sœur Alacoque, n'est-ce pas, quelques mots de sœur Alacoque ont suffi pour me remettre dans la paix. C'est exactement les termes que Marguerite Marie avait pu employer avant. Marguerite Marie avait bien dit qu'elle était donc inquiète, ne sachant pas d'où venaient ses apparitions, si c'était vrai ou pas vrai, et c'est Claude qui l'a mise dans la paix. Elle a pu dire: le Père m'a mis dans la paix. Eh bien maintenant, c'est Marguerite Marie qui met Claude dans la paix et qui lui donne d'autres conseils spirituels, car il y en a d'autres que l'on connaît. Comme il touche une pension, il est payé quand même pour son rôle de prédicateur. Alors il se demande un peu comment le faire, parce qu'il a fait un vœu de pauvreté et il ne sait pas trop comment utiliser l'argent. Mais Marguerite Marie lui donne quelques conseils à ce sujet. Et Marguerite Marie a même quelque chose qui est une véritable prophétie. Elle lui écrit en lui disant qu'il aura des persécutions. Au début, Claude ne comprend rien. Il ne voit pas ce que ça veut dire, ces persécutions. Et c'est peut-être, dit-il, les tentations du démon. En fait, comme Marguerite Marie lui avait dit, il y aura quelqu'un, un ecclésiastique, qui critiquera très vigoureusement Claude après un sermon et qui cherchera à le discréditer auprès des autorités. En fait, un peu plus tard, il y aura une autre persécution beaucoup plus grande que vous connaissez, je crois. Quelqu'un l'accusera faussement de faire de la propagande pour le catholicisme. Et alors, il sera arrêté et ensuite mis en prison. On sait aussi que c'est à Londres qu'il a pris un début de phtisie, pas de tuberculose. Et ce petit séjour en prison, qui a dû être d'environ un mois, au mois de décembre à Londres, dans l'humidité d'une prison, n'a pas dû arranger beaucoup les choses, on peut le comprendre. Et alors, sa santé va diminuer et il va se trouver assez vite dans une situation où toutes ses qualités ne pourront plus s'exprimer. Plus question des beaux discours qu'il pourrait faire. En effet, il ne reste pas très longtemps en prison. Il est exilé en France, comme il le dit, exilé dans son propre pays. C'est un personnage qui avait tout de même un peu une garantie diplomatique appartenant quand même au personnel du palais. Alors on s'est contenté de le renvoyer en France. Je crois que si on regarde à ce moment-là Claude avec un regard de foi, cet homme qui maintenant va un peu traîner sa vie comme il peut. En arrivant, on l'envoie à Lyon. Il est dans une communauté, dans le collège où il était autrefois, et le collège comprenait aussi la formation du séminaire. Il est père spirituel des séminaristes, des jeunes jésuites qui sont là, mais c'est assez limité comme activité, d'autant plus qu'il devra s'absenter de temps en temps. On l'envoie dans sa famille, où on pense qu'il pourra se retaper un petit peu. Et il va, il vient, et finalement, son travail diminue. Il essaye de parler du Sacré-Cœur autour de lui. Et il aura d'ailleurs, dans sa communauté, deux jésuites, encore assez jeunes, qui seront les premiers à parler du Sacré-Cœur dans des livres. Bon, ils sont d'ailleurs représentés sur la mosaïque qui est dans la chapelle. Vous savez que cette dévotion au Sacré-Cœur mettra du temps à se répandre, mais je ne veux pas développer cela maintenant. Sur le moment, le culte du Sacré-Cœur a un certain succès en France et dans certains pays voisins, mais il y a des freins à Rome pour reconnaître ce culte à un niveau universel. Les apparitions sont de 1675. Le culte universel du Sacré-Cœur sera en 1856, ça fait une grande distance, et les béatifications et canonisations de Marguerite Marie et de Saint-Claude mettront du temps à être vraiment réalisées, donc reconnues officiellement par l'Église. Bon, je ne vais pas développer tout ça, ce serait trop long, mais je crois que quand on regarde ainsi cette vie de Claude, on a vraiment l'impression qu'il a été choisi essentiellement pour aider Marguerite Marie à répandre le culte du Sacré-Cœur. Vous savez ce que la Sainte Vierge avait dit dans la grande apparition de 1688, à un moment où Claude est déjà mort, d'ailleurs, et qui était donc pour la fête aussi de la Vierge. La Vierge, c'est à ce moment-là qu'elle dit cette parole qui a été bien souvent répétée, c'est la vocation des filles de la Visitation de faire connaître le culte du Sacré-Cœur de Jésus, et c'est au Père jésuite de le répandre dans le monde. On voit bien que Claude, je dirais, a été comme une lumière qui a brillé un certain temps, qui a joué un rôle décisif à un moment voulu, et puis une fois qu'il a fini, eh bien, on l'utilise comme on peut, mais plus selon les forces qu'il avait autrefois. Pour terminer, et je crois que ce sera ce qui nous donnera vraiment le sens de la vie de Claude, oh, c'est l'épisode que vous connaissez certainement, celui de la mort de Claude lui-même, où ce sera en même temps, j'allais dire, la dernière collaboration de Marguerite Marie et de Claude. On l'avait renvoyé, ce malheureux Claude, vers le mois d'août, je crois, pendant l'été 1681. Il était déjà très avancé dans sa maladie. On avait pensé qu'à Paris, où il connaissait du monde, et en particulier Marguerite Marie, mais aussi un certain nombre de religieuses qui étaient autour d'elle, eh bien, serait quand même heureux dans cet endroit-là. Bon, et de fait, il a eu de la joie à se retrouver ici. Mais les médecins, finalement, comme dernier remède, avaient demandé qu'il aille respirer l'air natal. C'était un remède de l'époque. On pensait qu'en respirant ce qu'on avait respiré quand on venait de naître, ça guérirait peut-être la personne. Bon, le frère qui était à Vienne envoie une voiture pour ramener Claude donc à Vienne, mais Marguerite Marie envoie un papier à la résidence et en disant que le Seigneur veut votre sacrifice à Paray. Alors, Claude, comme je vous l'ai dit, qui sait que Marguerite Marie entend directement ce qu'elle transmet de la part de Jésus lui-même, n'hésite pas. On redéfait les valises qui étaient déjà faites, on renvoie la voiture vide à Vienne, et donc quelques jours après, Claude meurt à Paray-le-Monial. Je crois que ce dernier geste est significatif. Il me semble bien que là, c'est vraiment le Seigneur qui, dans une dernière action, veut rappeler que Claude a un rôle important dans le culte du Sacré-Cœur, et autant que Marguerite Marie, ou en tout cas pour aider ce que Marguerite Marie avait lancé. Et s'il avait été normal que ces deux saints se rencontrent, bien il fallait qu'ils restent unis mais même d'une façon visible, qu'en venant voir l'une, on puisse facilement voir l'autre, et inversement. Ainsi donc, cette présence et cette mort parhelmoniale a un sens qui est très clair. Bien, en regardant ainsi cette vie de Claude, je crois que on a vraiment là ce que Jésus avait dit de lui. Vraiment, il a rempli le programme que on lui avait en quelque sorte donné par cela, et il est le parfait serviteur et le parfait ami de Jésus. C'est pour cela que, bien, je crois que nous pouvons prier avec confiance, hein, et lui demander ses grâces. Ils nous ont fait comprendre, et ils continuent à nous faire comprendre combien l'humilité est importante pour tout ce que veut Jésus. Au fond, ce qu'ils ont fait tous les deux, c'est de s'effacer, quoi, devant ce que Jésus leur demandait, et en suivant très exactement ce qu'il voulait. Alors, je crois que au moment où on va pouvoir prier encore ce soir, un genre de prière que le Christ avait demandé, d'ailleurs, à Marguerite Marie, une heure sainte, pour rendre grâce de tout le bien qui a pu se produire dans le monde en révélant cet amour du Christ, et spécialement, bien sûr, à Parelmonial. Nous sommes les héritiers de quantité de gens qui sont venus les prier dans la confiance. Bien, à notre tour, eh bien, demandons-leur de découvrir, comme ils l'ont fait, l'immense miséricorde de Dieu.